C'est donc l'évangile qui servira de base à notre réflexion de ce dimanche. Et donc, il s'agira de la parabole des 10 vierges. Parabole de Jésus qui est une histoire connue, je dirais même archi-connue parmi les paraboles racontées par Jésus. Parabole qui, pour certains d'entre nous, nous suivent depuis le plus jeune âge, depuis la plus tendre enfance, où on l'a entendu le soir avant d'aller dormir, où on l'a entendu à l'école du dimanche, au culte des enfants. Et donc, on se demande parfois qu'est-ce qu'on pourrait encore en retirer. Un petit peu comme un citron qu'on presse pour en retirer le jus, pour en exprimer le jus, qu'on presse, jusqu'au moment où on arrive à la dernière goutte et puis voilà, il n'y a plus rien. Mais ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que quand on pense tout savoir, qu'on pense en avoir tout ressorti ce qu'on pouvait, eh bien, grâce à son actualité, il en sort toujours quelques gouttes. Et je vous proposerai donc ce matin de revisiter cette parabole à la façon d'un roman ou d'un feuilleton en suspense. Et donc, dans ce domaine-là, il y a essentiellement deux manières de construire une intrigue. Premièrement, le récit ou le scénario du film est si bien ficelé et si bien mené, un peu style Alfred Hitchcock ou Agatha Christie, qu'à l'avant-dernière page ou que dans les dernières minutes du film, on ne sait toujours pas qui est le criminel ou qui est le coupable et comment il va se faire démasquer. Ensuite, il y a des récits ou des scénarios. Au niveau des récits, on rencontre ça beaucoup dans les tragédies classiques, où dès la première page, dès le début du film, on connaît le résultat du scénario, de l'intrigue, on connaît le coupable. Et donc, là, le piquant, le sel du scénario sera de voir comment, par quel détour, après combien d'obstacles surmontés, le héros du film va découvrir, va démasquer le coupable. Et c'est cette deuxième forme d'intrigue que je vous propose de suivre pour revisiter cette parabole. Aujourd'hui, on emploierait le terme de remake, tant ce type de scénario ressemble à la trame de notre vie. Donc, commençons. Donc, la fin du scénario, mais qui est aussi le début de notre film, la venue de l'époux, ou le retour du Christ en gloire. Le hic, c'est que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Et entre les deux, donc, entre la venue de l'époux et maintenant, eh bien, il y a cette attente plus ou moins longue à mener, à meubler. Donc voilà, en résumé, la trame de ce roman, voici aussi en résumé la trame de notre vie. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de l'importance de l'attente dans votre vie? Que vous soyez chrétien ou non, jeunes ou vieux. Et ceci dit en passant, nous éprouvons souvent plus de joie à attendre que de recevoir ou de voir arriver ce moment que nous attendons. Et c'est d'ailleurs un sentiment bien connu des chasseurs qui sont parfois restés à l'affût pendant de longues heures et en se demandant est-ce que le gibier viendra, est-ce qu'il sera nombreux. Et donc c'est cette attente qui est la plus excitante souvent. En fait, nous passons la plus grande partie de notre vie à attendre. Imaginez-vous, rappelez-vous, comme enfant, je vais aller à la grande école comme ma sœur. Et aussi pendant l'année, vivement les vacances, qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse aller, je sais pas, en colonie, faire des stages. En tant qu'étudiant, avoir un cursus de 3, 4, 5 années devant soi, vivement que ce soit fini pour que je puisse décrocher ce diplôme que j'espère et d'entrer ainsi dans la vie active. Comme jeune aussi, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir l'âge pour passer mon permis de conduire et devenir ainsi autonome. Qu'est-ce que j'aimerais trouver un job pour pouvoir fonder une famille et commencer une vie active. Et puis, dans ce moment de la vie active, viendra ensuite cette longue, très longue période, même diront certains, de cette carrière professionnelle, en attendant une pension bien méritée, pensons-nous. Encore et toujours de l'attente. Mais dans quel état serons-nous à ce moment tant attendu? Aurons-nous un moral au zénith, accompagné d'une forme olympique, ou bien déçu, désabusé et même parfois brisé par les heurts et les aléas de la vie? Parce qu'une vie d'homme, tout compte fait, à l'échelle humaine, c'est quand même bigrement long. Et cela même devient de plus en plus long avec les progrès de la science et de la médecine, car il faut tenir dans le temps. Alors, dans ce long moment d'attente qu'est notre vie, il y a forcément des hauts, il y a des bas, il y a des moments de grande énergie, des moments où l'on se sent pousser des ailes dans le dos, prêt à rebâtir le monde. Mais il y a aussi inévitablement des moments de fatigue, des moments où on a l'impression d'être sans force et où le besoin de sommeil se fait lourdement sentir. Remarquez bien ici que Jésus dit que toutes s'endorment. Les singes, autrement dit les avisés, pour parler dans un terme que nous connaissons plus aujourd'hui, et ainsi que les folles, c'est-à-dire les imprévoyantes. Mais Jésus ne porte pas de jugement sur ce point, car il connaît notre nature, il connaît nos limites, et donc il ne les blâme pas. Une des traditions juives de cette époque voulait que l'époux aille chercher sa promise chez elle pour la ramener dans sa famille pour faire la fête. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que la mariée entrait effectivement dans la famille de l'époux. Elle quittait donc sa famille pour entrer dans une nouvelle famille. Et là, cela se faisait habituellement le soir, j'imagine après la journée de travail, et plus ou moins tard, en fonction de l'idée et de l'effet de surprise que l'époux voulait donner. Et donc, ces jeunes filles étaient envoyées au devant de l'époux pour éclairer son chemin et l'escorter auprès de sa promise. Mais, ne connaissant pas le moment exact, il fallait attendre. Et il fallait attendre plus ou moins longtemps en fonction de ce choix du marié. Et pendant ce temps d'attente, les lampes continuaient à brûler et d'éclairer. Imaginez qu'on ne trouvait pas de briquet ou de boîte d'allumettes à cette époque, et donc on laissait les lampes brûler. D'où l'importance d'avoir des réserves pour tenir dans le temps et dans la durée. Vu de l'extérieur, cela paraît évident. Cela coule de source qu'une réserve d'huile s'impose. Évident, peut-être pas pour tout le monde. Alors, je vous propose de réfléchir maintenant en quoi cette histoire racontée par Jésus nous concerne. Petite parenthèse, avec cette histoire, le souci de Jésus n'est pas de nous dire que, par exemple, seulement 50% des chrétiens seront enlevés, comme certains veulent nous le faire croire, mais de nous montrer l'importance de la préparation pour entrer dans le royaume de Dieu. Se préparer, d'accord, mais pourquoi? En vue de quoi devrions-nous nous préparer? Quelle est l'attente de notre vie, de ma vie? Parce qu'en réalité, de cette préparation pour entrer dans le royaume de Dieu, j'en suis le principal, j'en suis le seul acteur. Tiens, tiens, vous avez dit acteur. Souvenez-vous que nous sommes dans un film à suspense. C'est moi seul, au départ, qui décide ce que je ferai ou ce que je ne ferai pas. Alors, je reviens encore à cette question déjà posée. Quelle est l'attente de ma vie? Un monde meilleur? Un monde où la paix, la prospérité, le bonheur seraient la loi universelle? Un monde utopique où la technologie, la médecine auront solutionné tous les maux? Non, pas du tout. En réalité, nous n'attendons pas quelque chose, mais nous attendons quelqu'un, et c'est là toute la différence. Car nous ne nous appuyons pas sur des technologies, mais sur une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible est très claire à ce sujet. Elle dit, il n'a été donné aucun autre nom sur terre que Jésus-Christ pour nous sauver. Aucun. Et ce Jésus est en marche. Il vient. Et il vient aussi certainement que l'époux de cette parabole. Un jour, nous nous retrouverons face à lui. De notre vivant ou non, ça nous ne le savons. Mais rassurez-vous, je ne veux pas jouer ici le rôle de prophète de malheur, cherchant à vous faire peur et à jouer avec cette peur pour vous faire croire toutes sortes de choses qui n'ont même éventuellement rien à voir avec cette préparation pour entrer dans la salle du banquet. Ce n'est pas le but ici. Mais toujours cette question, comment me préparer? Comment être certain que je rencontrerai les conditions pour cela le jour venu? Comme je l'ai dit un peu plus en avant, nous sommes les seuls acteurs de notre vie, en ce sens que nous avons été créés avec une âme, avec une conscience et une intelligence. Et nous avons donc la capacité de faire des choix. Et donc, qui dit acteur, dit actif. Un acteur joue son rôle, remplit une mission, sa mission, qui pourrait se résumer en six verbes qui sont autant de défis. Aller, proclamer, réveiller, purifier, et chasser la sac. La suite de ce chapitre 25 de Matthieu est intéressante pour comprendre ce qu'est une attente active selon Jésus et comment la meubler. Dans ce chapitre 25, après cette parabole des 10 vierges, Jésus raconte la parabole des talents. Vous savez, ce maître qui part en voyage et qui confie ses biens à ses serviteurs pour les faire fructifier. Le but ici et maintenant n'est pas d'en faire une méditation, car ce texte mérite une attention unique aussi vu sa richesse. Mais il nous indique ce que le maître attend de nous. Il y a quand même un point commun entre ces deux paraboles, la parabole des 10 vierges et la parabole des talents, c'est qu'il y a une idée de temps. Dans la première, on attend l'arrivée de l'époux, et dans la deuxième, il y a, en filigrane, en deuxième plan, le retour du maître qui, on le sait, reviendra un jour, sans savoir exactement quand. Et entre ces deux, il y a une période dont nous ne connaissons pas la durée. Pour meubler cette durée, Dieu a donné à chacun d'entre nous un ou plusieurs talents. Et donc ici, dans notre vie, qu'allons-nous en faire? Les faire fructifier? Les faire s'améliorer? Ou bien au contraire, les enterrer dans un coin, les garder pour soi tout seul, de peur de devoir s'engager ou de d'avoir je ne sais quelle peur. Et en termes de fructification, il y a deux directions dans lesquelles ces talents peuvent servir le maître. Il y a d'abord dans la communauté chrétienne où il nous a établis, et ensuite il y a hors de cette communauté, envers mon prochain, c'est-à-dire celui qui est proche de moi, autour de moi, au travail, dans ma ville ou dans mon village. Pour ce qui est de la communauté, la communauté, c'est notre lieu de fortification et de ressourcement par excellence. Et donc, ne boudons pas la possibilité telle que le culte dominical, qui est, je pense, l'activité centrale et qui nous fait ressentir cette appartenance au corps du Christ. Il y a aussi les études bibliques qui nous aident à mieux comprendre notre foi, à grandir dans cette foi. Il y a aussi, enfin, les réunions de prière qui fortifient cette foi. À côté de cette édification personnelle indispensable, il y a aussi, évidemment, des services à remplir, des responsabilités à s'assumer pour que ce corps qu'est l'Église puisse fonctionner de manière efficace. Il y a l'édification de mes frères et sœurs, jeunes ou moins jeunes. Il y a l'entretien des bâtiments et de multiples autres tâches qui requièrent mon engagement. Chacun sait et doit se poser cette question: quels sont les talents que j'ai reçus de Dieu pour meubler les attentes de ma vie? Et il y a aussi cet engagement hors de ma communauté. Notre société crie famine dans tous les sens du terme. Et pourtant, l'épargne du Belge, quand on lit un petit peu les journaux, quand on écoute les informations, la chaussette du Belge, comme on l'appelle, n'a jamais été aussi importante, aussi grosse que maintenant. Et d'un autre côté, les gens précarisés aussi. Des personnes qui n'ont plus les moyens de se soigner, de se nourrir, de se loger décemment. Envers eux aussi, nous sommes la présence visible et active du Christ. Et d'ailleurs, à ce sujet, la troisième partie de ce 25e chapitre de Matthieu en dit long. On y parle du jugement dernier, et je vais vous le résumer. Donc, on a eu la première partie qui était la parabole des 10 vierges, on a eu la deuxième partie qui était la parabole des talents, et Jésus continue en disant: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui diront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif et donner à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et Jésus répond, le roi répond: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Et ensuite, il dira la même chose aux autres, aux chèvres mis à sa gauche, la même chose, et et ces gens seront étonnés en disant, mais quand avons-nous vu froid, avoir faim, avoir été en prison, avoir étranger? Et Jésus leur répondra la même chose. Chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et donc voilà la terrible sentence. C'est un chapitre 25 de Matthieu qui est vraiment une vie complète, un scénario complet de notre vie. Voilà. Je vais vous avouer une chose. J'ai été particulièrement déstabilisé la semaine dernière en apprenant comme vous que les cultes se feraient en virtuel. Et donc en consistoire, nous avons dû réfléchir à la solution à mettre en place. Et donc comme au mois de mars-avril, comme nous étions déjà en partie rodés, donc nous avons repris ce culte en virtuel et non plus en présentiel. Et donc comme j'étais avec Véronique, responsable du culte d'aujourd'hui, c'était décidé il y a déjà un certain nombre de semaines, mais jusqu'à présent j'avais l'habitude de me trouver en face de vous, au milieu de vous pour partager ce moment, de boire une tasse de café après le culte et de discuter de choses et d'autres. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un temple vide, à l'exception d'une équipe technique que je remercie au passage. Et je me suis posé pas mal de questions. À quoi est due cette pandémie qui me tombe dessus sans crier gare? D'où nous vient-elle? Certains la diaboliseront, tandis que d'autres la diviniseront. Pour ma part, je ne sais pas ce qu'il faut en penser et ce n'est peut-être pas le plus important. Mais une chose est certaine, cette situation, comme toute situation qui se présente en nous, comporte des inconvénients, comporte des risques, mais aussi d'un autre côté, des avantages et peut-être des opportunités à saisir. En fonction du regard que vous jetez sur elle, vous pouvez en ressortir abattu ou au contraire y trouver des moyens de vous réinventer. Le fait pour une communauté de se retrouver éparpillée, isolée, peut faire perdre un certain nombre de repères, de voir ma foi moins facilement entretenue et donc de la laisser gagner petit à petit par un sommeil qui peut être ici mortel. Ou au contraire, je peux me dire qu'à côté de l'Église, bâtiment et institution humaine, il y a aussi l'Église, avec un E majuscule, l'Église, corps du Christ, invisible à l'œil nu, mais dont on doit faire voir les effets sur les êtres humains. Qui dit aussi situation nouvelle, dit usage de nouveaux moyens et de nouvelles technologies. Cela signifie aussi un besoin d'adaptation, un besoin de formation. Mais cela signifie aussi, surtout, un besoin humain supplémentaire. Et on met donc ici nouveau le doigt sur une attente active. Pour ceux ou pour celles qui se demandent s'ils ont reçu des dons, la réponse est « et oui, oui, sans l'ombre du moindre doute ». Il faut juste se poser les bonnes questions, se lever et agir. Gardons toujours à l'esprit que nous attendons le retour du Christ. « Il est en marche », nous dit-il. Remarquez que, ici, c'est lui qui marche. Il vient à notre rencontre. C'est lui qui fait la plus grosse part de l'effort. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, attendre. Attendre, oui, mais pas n'importe comment. Et donc, Pour moi, la conclusion de cette méditation est limpide. Et cette conclusion tient en un seul mot. Veillez. Amen.